magazine des Nations Unies.
Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Merci d'être fidèle à la Radio de la Paix. Lizzy Bettina vous présente cette émission. D'abord ce titre, 30 000 anciens réfugiés angolais de la RDC devront retourner dans leur pays. Il s'agit d'un rapatriement volontaire. Un premier convoi de 500 personnes a quitté Kinshasa mardi dernier. Vous suivrez le dossier du magazine sur cette opération. Et puis, la rentrée scolaire prévue pour le mois de septembre prochain et déjà l'UNICEF préconise la stratégie du porte-à-porte pour sensibiliser les parents et les tuteurs sur l'importance de l'éducation de leurs enfants. Enfin, les Nations Unies à la recherche de héros humanitaires, c'était à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août dernier. À Kinshasa, les agences onusiennes œuvrant dans l'humanitaire ont organisé des manifestations en rapport avec cette journée. Le magazine des Nations Unies vous propose un reportage et une interview sur cet événement.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche chez vous. Je l'ai dit dans le sommaire, 500 anciens réfugiés congolais de Kinshasa ont quitté la capitale, destination leur pays, l'Angola, qu'ils ont quitté depuis plus de 40 ans pour certains d'entre eux. Honoré Missinga Kalala, bonjour.
Bonjour Lydie Bettina.
Vous avez assisté à l'embarquement de ces 500 réfugiés. Racontez-nous, c'était dans quelles circonstances ?
Il était 11h30, mardi dernier, à la gare centrale de Kinshasa. 500 anciens réfugiés angolais, vous l'avez dit, hommes, femmes et enfants confondus, ont pris place à bord d'un train de la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, ex-ONATRA. C'était à l'issue d'une cérémonie officielle présidée par le ministre congolais de l'Intérieur. Mais suivons d'abord Céline Smith, qui est la porte-parole de la représentation du ACR. Elle circonscrit ici pour nous les circonstances de cette opération.
Aujourd'hui, nous lançons une opération de rapatriement des anciens réfugiés angolais qui vivent en RDC. Donc à ce jour, il y a encore plus de 48 000 anciens réfugiés angolais qui vivent en RDC et 30 000 entre eux ont choisi de rentrer. Pour leur permettre encore de rentrer, nous avons discuté avec les autorités angolaises et également les autorités de la RDC pour lancer un dernier mouvement de rapatriement. Et c'est ce mouvement qui commence aujourd'hui et qui va être lancé avec un premier convoi de 500 anciens réfugiés angolais qui vont rentrer chez eux. Nous allons ensuite organiser deux convois par semaine, à la fois de Kinshasa, mais également du Bas-Congo et du Katanga, puisque les anciens réfugiés vivent dans ces trois provinces. Et donc, nous allons organiser deux convois chaque semaine.
Oui, nous venons de suivre la porte-parole du HCR RDC. Une question, Honoré, pourquoi Céline Schmidt dit anciens réfugiés angolais au lieu de réfugiés tout court? Pourquoi anciens?
Pourquoi? Eh bien, ils sont anciens réfugiés parce que la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés angolais vivant en RDC est en vigueur depuis le 30 juin 2012. Cette clause a été signée par l'Angola, pays d'origine, la RDC, pays d'accueil, et le HCR. Donc, il dit, depuis le 30 juin 2012, les réfugiés angolais de la RDC ont perdu leur statut de réfugié. C'est pourquoi on les appelle anciens réfugiés. Et vous avez suivi la porte-parole du ASR-RDC. 48 000 ont été recensés et parmi ces 48 000, 30 000 ont opté pour le retour au Belkaï, un retour libre et volontaire.
Et que deviennent les 18 000 autres?
Les 18 000 autres ont aussi choisi librement de s'intégrer dans la société congolaise. Suivons d'ailleurs à ce sujet Céline Smith.
Sur les 48 000 anciens réfugiés angolais, 18 000 ont choisi de rester en RDC et donc ont choisi l'option qu'on appelle l'intégration locale. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent rester en RDC. Ils reçoivent des permis de séjour. Nous avons aidé à l'obtention des permis de séjour. 12 000 aujourd'hui ont déjà eu des cartes de séjour temporaires qui vont aller jusqu'en 2016. Les autres vont également avoir des cartes de séjour et les autorités angolaises se sont engagées à leur donner des passeports. Donc ils resteront en RDC non plus comme des réfugiés, mais comme des Angolais qui vivent en RDC.
Revenons-en à l'ambiance qui a entouré cet embarquement à la gare centrale mardi passé. Vous avez certainement interrogé un certain voyageur du jour. Quels étaient leurs sentiments?
Ils étaient partagés entre la joie de rentrer au Belkaï et aussi la tristesse de quitter un pays, la RDC, qu'ils considèrent comme leur deuxième patrie. Je propose d'ailleurs quelques témoignages à ce sujet.
Je m'appelle Clara Marie Ambuka, présidente des femmes angolaises et réfugiées. Je suis là, ça fait presque 40 ans et les sentiments, ça ne peut être qu'un sentiment de joie et beaucoup d'émotion puisque les Congos étaient devenus presque un second pays aussi, une seconde patrie. Avec, on s'est créé des amitiés et c'est vraiment difficile de pouvoir aussi quitter ces gens-là. Bon, ni n'est mieux que chez soi, il faudra partir un jour.
Sentiment à Zanango, pour la zone Namboka Nangai, on a tout terminé Sengo, dans un pays, le gouvernement à Congo, merci. Na gouvernement ya biso ya ngolé na zo pesa ngo merci po na nyoso basami po le kamalamu en tout cas na pesi ba ngo merci na tiki bana na nga awa bana nga batika ni magena okende bana nga batika li nzamba batela ba ngo malamu nzamba boma ba ngo kitoko
kumbona Antoine Sebastien na za refugié angolais na ba na RDC na pesi na zo nga nga na mboka na nga RDC bengani biso te na zo nga comme volontaire. Nazane Sengo, de Nazan Bokanga, Nazapena moi regla mouki parce que la série batoupe ou la messerine à Bango, mais moi n'a pas de scalé, n'a pas de mort.
Vous avez suivi ce témoignage, Lydie, pour les deux interlocuteurs qui ont parlé en lingala. D'abord la femme, elle s'est dit ravie, très ravie même, de rentrer chez elle. Elle a remercié la RDC et son pays, l'Angola, d'avoir favorisé ce retour. En même temps, elle a exprimé cependant un regret, celui de laisser derrière elle ses enfants. Et le deuxième, un quadragénaire, a exprimé les mêmes sentiments. Il s'est dit heureux de rentrer en Angola, son pays, tout en précisant qu'ils n'ont pas été refoulés par la RDC et que c'est volontairement et librement qu'ils retournaient chez eux. Mais comme sa compatriote qui a précédé, lui aussi regrette de laisser derrière lui sa femme, une Congolaise et un enfant, faute de passeport congolais pour cette femme et son enfant.
Nous souhaitons à ces familles d'être à nouveau réunies. Merci Honoré Missenga Kalala pour ce dossier. Deuxième actualité de la semaine, le monde a célébré mardi dernier la journée de l'aide humanitaire. À Kinshasa, les Nations Unies et le gouvernement congolais ont rendu hommage aux humanitaires au cours d'une cérémonie officielle. Nadine Foula a suivi pour vous l'événement.
C'est depuis 2008 que la journée mondiale de l'aide humanitaire est organisée. Cela en mémoire des victimes de l'attentat à la bombe qui avait eu lieu à Bagdad. Et le mardi 19 août 2014, le coordonnateur de l'action humanitaire des Nations Unies en RDC a livré trois messages. Le premier pour rendre hommage et honorer la mémoire des disparus, mais qui restent vivants au fond de nos cœurs. À ce sujet, il faut souligner que depuis 2013, 155 travailleurs humanitaires ont été tués, 171 gravement blessés et 134 enlevés. Globalement, cela représente une augmentation de 66% du nombre des victimes par rapport à 2012. Le deuxième message de Moustapha Soumaré a concerné les populations hôtes et toutes les personnes qui viennent en aide, soit pour négocier, soit pour conserver l'accès aux populations vulnérables et pour protéger les victimes. Ces communautés d'accueil et familles hôtes qui ne savent pas pour combien de temps elles hébergeront ceux qui sont venus trouver refuge chez eux. Et enfin, le troisième message a porté sur le but même de la dite journée, c'est-à-dire mettre en avant le besoin et défis humanitaires actuels auxquels l'on se trouve confronté, et en particulier les bénéficiaires au nom desquels les humanitaires font leur travail. Côté gouvernement, représentant son collègue des affaires sociales empêchées, le ministre Makia Mwangu de l'EPSP a réitéré l'engagement et le soutien de l'État congolais dans le volet humanitaire. Notons enfin que cette journée s'est clôturée par une expo photo organisée à la place Gare Centrale.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Qu'est-ce qu'une radio communautaire et pourquoi l'UNESCO s'investit-elle depuis quelques années dans le projet de renforcement des radios locales de certaines contrées du pays? Nous avions interrogé à ce sujet le représentant de l'UNESCO. Le magazine des Nations Unies revient sur cet entretien. Abdourahamana Diallo est interrogé par Honoré Missenga Kalala.
Monsieur le représentant, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'une radio communautaire?
Une radio communautaire, c'est une radio de proximité. C'est une radio de proximité, c'est une radio qui va donc s'adresser à un champ assez réduit au niveau de la portée, mais qui a pour objectif d'être vraiment de proximité, échanger sur des préoccupations locales dans un dialogue très interactif et pour vraiment répondre aux préoccupations des différentes communautés.
Donc radio communautaire égale radio locale.
Radio communautaire égale radio locale, et en particulier radio locale dans les zones les plus reculées, les zones qui ne peuvent pas être couvertes par les grandes radios.
Voilà. Alors, monsieur le représentant, pourquoi l'UNESCO s'intéresse-t-elle à ces radios communautaires?
Avant tout, l'UNESCO, l'un de nos mandats, c'est la communication et l'information. vous savez, l'UNESCO, nos mandats, c'est éducation, sciences, culture, communication, information. Donc, c'est l'un de nos mandats à nous occuper de la communication, appuyer ainsi tous les systèmes d'information, échange d'information, donc au niveau local comme à un niveau beaucoup plus large. Donc c'est une obligation pour nous d'être auprès des partenaires des médias, qu'ils soient au niveau national, au niveau local, que ce soit la société civile, que ce soit au niveau des entités institutionnelles. Donc c'est une coopération technique, renforcement de capacités diverses, partage d'informations, et puis partage de nouvelles technologies. Et c'est en ce sens que ce projet, qui est financé par la coopération suédoise, met l'accent sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication au niveau des radios locales.
Jusqu'où ira l'UNESCO avec ce projet ?
Ben écoutez, pour l'instant, on peut dire que ça a été une étape pilote, parce que le projet a été lancé en 2012, mais avec 4 radios uniquement, 4 radios locales. Hein. Deux dans le Bas-Congo, une à Kenge, une autre à Lumumbashi, dans le Katanga. Donc ces 4 radios, vous comprendrez qu'à l'échelle de la République démocratique du Congo, c'est un échantillon qui est très petit, mais c'est un échantillon qui est très intéressant parce qu'il nous permet de bien mesurer les progrès qui sont enregistrés avec cette méthodologie. Notre ambition, dans un premier temps, toujours dans le cadre d'un financement de la coopération suédoise, c'est de doubler le nombre de 2015 à 2017, mais nous souhaitons aussi élargir la surface des partenaires. Nous allons après leur présenter le produit en disant voilà comment nous avons travaillé pendant 3-4 ans avec telle radio, nous avons renforcé leur capacité dans tel et tel aspect, intégration des technologies de l'information et de la communication, formation sur le marketing, utilisation de certains logiciels, etc. Formation pour la gestion d'une radio, etc. Donc nous souhaitons partager ce résultat avec d'autres partenaires pour bien sûr multiplier le nombre de radios locales qui pourront bénéficier de cet exercice.
Alors vous avez démarré le projet en 2012, est-ce qu'on peut faire un bilan ?
Le bilan, je vous enverrai tout à l'heure, vous irez poser les questions aux représentants des 4 radios. Le bilan est satisfaisant, nous mesurons les progrès qui ont été enregistrés vraiment au niveau de ces 4 radios. Elles ne sont pas toutes au même niveau, certains ont plus de difficultés, notamment pour l'appropriation des matériels, des nouvelles techniques et de ces technologies de l'information et de la communication. Mais dans l'ensemble, nous avons vraiment mesuré une amélioration dans la production des contenus, dans la proximité donc qui a été améliorée avec les auditeurs, dans la gestion de leur entité aussi. Il y a des projets considérables qui ont été enregistrés.
Est-ce que vous avez peut-être un mot, une recommandation à faire à votre partenaire, enfin aux financiers de ce projet, la Suède?
Mais avant tout, c'est de le remercier. La Suède a toujours été aux côtés de l'UNESCO et bon, c'est la question vraiment de l'information du public, la communication et l'information est très importante pour la Suède, la liberté de la presse également. Ben, nous tenons à les remercier. En fait, ce projet, c'est la RDC et plusieurs autres pays de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est qui en bénéficient. Nous les remercions, mais nous lançons un appel pour un financement supplémentaire pour multiplier la surface des radios locales, parce que ici, vraiment, la RDC est un mini-continent. L'idéal serait qu'on ait une radio dans chaque province, au moins, bien couvrir une province pour bien mesurer l'impact de l'intégration d'éthique dans les radios.
Peut-être un autre de la Suède, un appel à d'autres éventuels bailleurs.
Tout à fait. Nous souhaitons, d'ici la fin de l'année, organiser une petite table ronde où nous allons présenter ce produit. Présenter l'expérience, montrer qu'est-ce qui a été fait depuis 2012 à 2013, montrer les résultats qui ont été enregistrés et inviter ainsi certains partenaires aussi à rejoindre la Suède pour financer ce programme.
Merci, monsieur le représentant de l'UNESCO en RDC.
Non, nouvelles en bref. D'abord avec la MONUSCO, une mission conjointe section genre, droits de l'homme, appui à l'administration pénitentiaire et information publique de la MONUSCO, ainsi que le ministère provincial de la justice, s'est rendue la semaine dernière à la prison de Kaélé, en territoire portant le même nom au sud Kivu. Objectif, évaluer les conditions globales de détention dans cette maison carcérale. Les membres de la mission ont aussi échangé avec les détenues femmes sur les conditions générales de leur incarcération. L'UNICEF prépare déjà la rentrée scolaire. Elle vient de préconiser la stratégie du porte-à-porte et de ménage par ménage pour sensibiliser les parents et les tuteurs d'enfants identifiés sur l'importance de l'éducation. Cette année encore, nous encourageons tous les enfants, filles et garçons à aller à l'école dans un cadre de paix. C'est leur droit, a déclaré Sylvie Fouet. C'est la représentante adjointe de l'UNICEF RTC. C'était au cours de la campagne officielle d'inscription des enfants à l'école primaire pour l'année scolaire 2014-2015.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, une exposition de photos a aussi été organisée à la place de la gare centrale à Kinshasa. Une exposition faite par des agences humanitaires des Nations Unies. C'est là que Nadine Foula est allée à la rencontre de Yvon Edoumou. Il est chargé de l'information publique et du plaidoyer au bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Suivez leur entretien.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
S'il vous plaît bien vous présenter.
Yvon Edoumou, chargé de communication avec OCHA en République démocratique du Congo.
Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pourquoi cette journée?
C'est une journée qui a été instaurée en 2008 pour commémorer ceux qui travaillent dans l'action humanitaire. Et notamment, c'est une journée qui avait été instaurée après l'attentat qui a eu lieu sur les Nations Unies en Irak en 2003. Donc c'est une journée de commémoration de ceux qui ont perdu la vie sur le champ de bataille, dans les sites du travail, mais aussi pour aussi célébrer évidemment ceux qui continuent ce noble métier et savoir qu'eux aussi ont besoin du soutien des États, des partenaires pour pouvoir faire ce travail.
Et quelle est la particularité pour cette année 2014?
Mais cette année 2014, en fait, le thème qu'on a choisi, c'est le thème des héros humanitaires. Aujourd'hui, on estime que n'importe qui n'est pas obligé d'être fonctionnaire d'une ONG ou des Nations Unies. Vous, en tant qu'individu, en tant que personne dans votre village, dans votre milieu, vous pouvez contribuer à améliorer le sort des gens qui ont subi des souffrances. Donc, nous sommes à la recherche des messagers de paix, à la recherche de héros humanitaires qui vont embrasser cette vocation afin de pouvoir aider les autres.
Et comment se présente la situation humanitaire en RDC?
La situation humanitaire en RDC demeure toujours assez critique. Vous savez, l'Est demeure une zone très, très difficile pour les Nations Unies, pour les ONG nationales et internationales qui y travaillent. Nous avons toujours plus de 2,6 millions de personnes déplacées. Nous avons des milliers et des milliers de gens qui n'ont pas accès à l'eau, qui souffrent, qui n'ont pas accès à l'éducation. C'est une situation qui est difficile, à laquelle nous essayons de répondre tant bien que mal. Avec les moyens que nous avons, nous faisons face à des graves problèmes d'insécurité. Insécurité liée à la présence des groupes armés, mais aussi un problème d'accès, l'accès physique, le manque de routes, le manque de... Comme vous avez vu sur l'exposition ici, on a montré des photos de comment est-ce que nous travaillons dans des conditions très difficiles. Donc voilà, c'est un travail que nous faisons depuis plusieurs années. On essaye de le faire au mieux, mais on a besoin d'aide.
Nous sommes à 4 mois de la fin de l'année. À quelle hauteur se situerait déjà le programme d'action humanitaire en RDC pour toujours cette année en cours?
Alors, pour ce qui est du plan d'action humanitaire 2014, nous sommes à moins de 50% à l'heure où je vous parle, ce qui n'est pas un chiffre très radieux. Nous sommes en train de redéployer nos efforts afin d'attirer un peu plus de fonds, mais nous sommes à peu près à moins de 50%. Aujourd'hui, la RDC est dans une zone en quelque sorte en compétition avec d'autres crises dans la sous-région, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, d'autres pays un peu plus éloignés. Et nous avons tous les mêmes sources de financement, donc nous devons tous compétir en fait pour ces mêmes montants. Donc avec les mêmes moyens que nous avons, les ONG nationales, internationales, les Nations Unies font de leur mieux, mais avec un peu plus d'argent, on pourrait faire encore beaucoup plus.
Y a-t-il eu des victimes parmi les humanitaires en RDC ou des pertes en matériel ou logistique?
Oui, alors la semaine dernière, l'ONG MEDER a perdu un contractant, un ressortissant congolais qui travaille pour MEDER. Il est important de noter que en fait, ce décès n'est pas lié directement au travail de ce fonctionnaire, mais on le considère quand même comme un des nôtres. En RDC, nous n'enregistrons pas souvent beaucoup de décès, mais beaucoup de tracasseries. beaucoup d'intimidation.
De la part de qui?
Ben, de la part des autorités, de la part des personnes qui sont censées nous aider, souvent de la part des services de sécurité. Donc c'est des actes d'intimidation qui n'empêchent pas le travail, mais qui le retardent de temps en temps. Ça fait que souvent, certes, on arrive à les contourner, à résoudre ces problèmes, mais heureusement pour nous que nous avons un ministère des Affaires humanitaires qui est très actif, qui nous soutient beaucoup et avec qui nous pouvons exposer nos problèmes et avoir gain de cause, avoir des solutions pratiques une fois qu'on a discuté avec lui.
Et côté logistique?
Ben côté logistique...
Des pertes en logistique?
Pertes en logistique, non en tant que tel. Le grand souci en termes de logistique, c'est le manque de routes qu'il y a dans le pays. Donc quand vous êtes dans des zones reculées comme en province orientale ou dans les Kivus, le manque de routes fait qu'aujourd'hui le travail que nous faisons, ça nous prend deux fois plus de temps pour faire le travail si on avait peut-être des routes bitumées ou un accès beaucoup plus facile. Quand vous êtes dans une province comme l'Équateur avec tous les cours d'eau, c'est pas évident. On a ici dans l'exposition une photo d'une pirogue de l'OMS qui allait mener une campagne de vaccination sur une pirogue. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés en termes de logistique.
Est-ce que, monsieur, vous avez un message particulier à adresser aux autorités congolaises ou aux acteurs sociaux en cette journée?
Ben, je pense aux autorités congolaises, c'est d'abord les remercier, comme je disais tantôt par rapport au ministère qui nous aide beaucoup, avec lequel nous avons vraiment une franche collaboration. Il y a des rencontres régulières entre le bureau OCHA et le ministère pour faire le point. Et donc je pense que tout ce qu'on peut demander, c'est aux autorités congolaises de s'investir encore plus dans l'action humanitaire, parce qu'éventuellement, comme vous savez, les Nations Unies et les ONG n'ont pas vocation à se pérenniser au Congo. À un moment donné, il faudra partir. Il faudra que ce soit l'État congolais qui s'occupe de ces ressortissants. Nous le ferons aussi longtemps que nous sommes là, mais il faudra aussi préparer la relève auprès des autorités congolaises.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Rendons-nous en province orientale où un plan de contingence contre le virus d'Ebola a été mis en place grâce à un partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le docteur Jean-Marc Mabindi, médecin inspecteur provincial, motive ici l'activation de ce plan de contingence. Il est au micro de Dorcas Kankou.
Comme vous le savez, depuis plus de 3 mois, le monde, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, connaît une montée fulgurante d'épidémies de fièvre hémorragique Ebola où 4 pays sont touchés avec beaucoup plus de cas. Donc c'est à cause de ça que notre pays a déjà connu des expériences malheureuses. La province orientale, notamment, a connu l'épidémie d'Ebola en 2012. Nous nous sommes dit que c'était important pour nous de voir notre plan de contingence, voir qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan de la coordination, soit avant, pendant et après l'épidémie, si jamais cela arrivait. Également, mettre en place des dispositifs pour pouvoir donner des réponses adéquates sur le moment venu. Nous devons être en alerte maximale. Donc, en moindre cas, dès que au niveau des structures, on se rend compte qu'il y a des personnes qui se présentent avec des signes tels que décrits pour le cas de fièvre hémorragique Ebola. Il est essentiel de donner l'information pour que nous puissions bien cerner le problème et puis chercher à faire une investigation éventuellement et former l'autorité compétente.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Pourquoi la MONUSCO parle d'îlot de stabilité au lieu de parler de territoire de stabilité? Question posée mercredi dernier à Kinshasa au porte-parole intérimaire de la mission. Écoutez la question ainsi que la réponse de Charles Bambara.
Thierry Maille de l'Agence congolaise de presse. Après une année du travail de la brigade d'intervention, vous parlez des îlots de stabilité que le représentant spécial devra visiter. Pourquoi vous ne parlez pas des territoires entiers qui sont stables ou à visiter? Pourquoi? Pourquoi îlots au lieu de territoires?
Plusieurs îlots forment un territoire sans doute. Je crois qu'il y a une quinzaine d'îlots de stabilité, mais ils font partie de territoires si vous voulez. En réalité, il s'agit de localités, Pinga, Rutshuru, Walikale, etc., libérées de la présence des groupes armés, comme vous le savez. Et à travers ces îlots de stabilité, qu'est-ce que nous voulons? Nous souhaitons un retour rapide de l'autorité de l'État à travers des projets concrets de réhabilitation des routes, de réhabilitation des immeubles de l'administration, des différents services administratifs comme la police, les écoles, les centres de santé, etc. Et c'est ça, concrètement, pour faire revivre et surtout pour consolider la paix. Parce que sans cette présence, effectivement, ces groupes armés qui souvent ne sont pas très très loin d'ailleurs, peuvent revenir et reprendre ces mêmes localités qui ont été libérées. D'où le concept d'îlot de stabilité pour pérenniser un peu la paix, la stabilité et la sécurité dans ces zones.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Oh, je suis Philippe Anderson Mills de la section sécurité. J'occupe le poste d'assistant administratif. Je travaille directement avec le chef de la sécurité. Initialement, j'ai une formation en langue étrangère. J'ai un diplôme en marketing et en management. Je suis père de 4 enfants d'origine ivoirienne. J'ai la double nationalité, la nationalité française et la nationalité ivoirienne. Je suis dans la MONUSCO depuis 2012, ça fait 2 ans, mais j'ai 10 ans d'expérience dans le système des Nations Unies. Le Congo, c'est un pays que j'aime bien, étant d'Afrique de l'Ouest. J'ai toujours souhaité avoir une autre vue de l'esprit ici, un autre pays qui est hors de l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai beaucoup voyagé dans les pays européens, mais les pays africains, j'en ai pas tellement visité. C'est avec plaisir que j'ai accepté le poste quand on m'a dit que je venais à la MONUSCO. C'est un pays pour moi où j'ai trouvé des gens très accueillants, des gens très sympas. Il y a beaucoup qui m'ont ouvert le cœur. Dans l'ensemble, je me sens très bien ici. Je suis content d'être là depuis 2 ans. Comme hobbies, j'écoute comme tout le monde la musique congolaise. Bon, c'était pas trop mon fort au départ, mais depuis que je suis venu ici, j'aime beaucoup la musique congolaise. Je trouve qu'il y a beaucoup de rythme. Voilà quoi, on essaie de passer du bon temps. Bon, de temps en temps, on va dans ce qu'on appelle ici des terrasses, mais nous dans notre pays, ça s'appelle des maquis. On prend un peu du bon temps, on va en boîte, on s'amuse bien. En tout cas, je m'éclate bien ici, je suis content d'être là. Je fais pas mal de sport aussi, beaucoup plus de marches parce que j'ai pas trouvé d'installation sportive au niveau d'ici. Voilà quoi. Mes projets d'avenir au niveau du Congo, bon. Tout en sachant comment l'orientation de la mission se fait, je ne sais pas si je devrais rester plus longtemps ou pas, mais bon, on verra ce que l'avenir nous dira, mais sinon je suis là, je crois que je serai là encore pour au moins 1 an, et puis je devrais apprécier comment ça se passe, quoi. Mais sinon dans l'ensemble, je me sens très bien ici, la MONUSCO, l'ambiance, c'est très sympa, et puis voilà quoi. Donc mes arénas, je les prends entre Abidjan et Lille, parce que ma famille vit en France. Après, je vais essayer de visiter les pays voisins. Je suis déjà allé à Brazzaville, dans la République du Congo. Et je compte maintenant visiter le Rwanda, le Burundi, les pays voisins, quoi. Avant la MONUSCO, j'étais aussi sous un système des Nations Unies. Je travaillais pour l'ONUCI, où j'occupais exactement les mêmes fonctions qu'ici. J'étais l'assistant du chef de la sécurité, donc je faisais exactement les mêmes types de fonctions. C'est-à-dire, en fait, c'est les tâches administratives qui sont relatives au budget, à la logistique, et puis, comme tout assistant administratif, je prenais les minutes pour des réunions d'un certain niveau. Voilà, donc, en fait, de manière pratique, j'ai en charge, par exemple, la gestion du contrat des sociétés de sécurité sur place. J'ai en charge aussi de faire les rapports de toutes les réunions comme le SMT, Security Management Team, qui regroupe tous les chefs d'agence. C'est une réunion qui s'est faite une fois toutes les 2 semaines. Après, il y a pas mal de tâches administratives, quoi. Au niveau de tout ce qui est plat, tout ce qui est culinaire, au niveau du Congo, j'ai pas mal de difficultés parce qu'en fait, je suis pas très friand des plats à base de feuilles et de pâtes. Donc, en ce qui concerne la nourriture typiquement congolaise, c'est pas pour vous de se voir, mais franchement j'aime pas parce que je suis pas habitué à ça, et puis voilà, donc j'arrive pas à manger, quoi. Donc bon, j'ai trouvé une fille de maison qui arrive à faire des plats un peu plus ou moins européens, quelques sauces typiquement dans le style ivoirien. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup ici, c'est ce que vous appelez le makemba, nous on appelle la loco. Ça j'aime beaucoup, ça j'arrive à manger. Et puis mais tout ce qui est pondou, tout ça, pour moi tout ce qui est passé, c'est très 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 compliqué.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Cap.
Le calendrier des Nations Unies prévoit plusieurs forums la semaine prochaine, entre autres le 20e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. C'est du 24 au 27 août à Francfort, en Allemagne. Le 26 août, c'est le forum mondial des jeunes sur le sport, la culture et la paix à Nanjing, en Chine. Enfin, le 28 août, à Addis Abeba, en Éthiopie, se tiendra la réunion du groupe d'experts sur l'étude du conflit dans la région des Grands Lacs. C'est la fin de cette émission et voici les principaux titres. 30 000 anciens réfugiés angolais sur les 48 000 recensés en RDC choisissent de rentrer dans leur pays. Mardi dernier, un premier convoi de 500 d'entre eux a quitté Kinshasa. Vous avez suivi notre dossier sur cette situation. Et le 19 août, c'était la journée mondiale de l'aide humanitaire. Vous avez suivi le message du coordonnateur de l'aide humanitaire en RDC, M. Moustapha Soumaré, à cette occasion. La semaine prochaine, vous retrouverez toute l'équipe du magazine des Nations Unies avec le retour de vacances de notre confrère Jean-Pierre Elali Ikoko. Merci d'avoir suivi cette émission, supervisée par Nicole Ngaka et coordonnée par Honoré Missena Kalala, qui était aussi au reportage. Didier Bettina était à la présentation et Willem Lungamba à la mise en onde. Retrouvez cette émission sur radiookapi.net. À dimanche prochain.